France Info. France Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr et sur les réseaux sociaux avec le hashtag les informés. Alors tout d'abord, rendons hommage à un confrère qui va quitter le premier plan. Il était tous les soirs face aux informés de France Info. Il s'agit de PPD, oui, on l'a appris, hein. La prochaine formule des guignols de l'info se passera de lui pour la présentation. Combien d'adolescents ont voulu devenir journalistes grâce à lui, fort avec les faibles, faible avec les puissants, hein, c'est un peu la base. Peut-être pourra-t-il se recycler chez les Muppets, ou s'il le souhaite, ici aux informés de France Info. C'est une invitation très sérieuse. Alors eux, ils ne sont pas en latex. Nous avons vérifié avant l'émission, on leur a tapoté le visage comme le Premier ministre avec un jeune militant socialiste. Et les informés de France Info reçoivent ce soir la journaliste Christine Claire. Bonsoir.
Bonsoir.
Anne Rosenscher de Marianne, bonsoir.
Bonsoir.
Virginie Le Petit de Cour International, bonsoir.
Bonsoir.
Et le communicant Emery Doliger, bonsoir.
Bonsoir.
Et ce soir, quatre débats d'avant-week-end. Bon anniversaire, Beyoncé. Oui, la chanteuse américaine est devenue féministe. Coup de com' ou vrai engagement? Les 35 heures vont-ils passer l'hiver? Université d'été du FN, Marine Le Pen abandonnera-t-elle son père sur une aire d'autoroute? Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. À force de selfies, de perches à selfies, de tiens, regarde, c'est la maison qu'on a louée pendant nos vacances, on avait un peu oublié le poids et la force d'une photo. L'onde de choc n'en finit plus. La photo du petit garçon syrien étendu sur une plage turque, le visage caché par l'eau et le sable, a secoué les consciences européennes. Le président français et la chancelière allemande proposent donc des quotas contraignants pour que chaque pays accueille des réfugiés, mais tout cela ne sera discuté que le 14 septembre lors d'une réunion européenne. En attendant, l'urgence enflamme les consciences de chacun et des initiatives commencent à voir le jour, même en France, oui, comme le député Germinal Peyrot. Il est député PS de Dordogne et il lance un appel au maire de son département pour accueillir des réfugiés.
J'appelle les maires de toutes les communes du département à participer à ce mouvement d'accueil qui va se mettre en place dans notre pays, parce que c'est tout simplement notre devoir d'être humain. Je ne veux pas dire de nombre, mais nous accompagnerons toutes les collectivités qui s'engageront financièrement, bien sûr, c'est de ça que je parle, et on le fera financièrement à travers notre compétence essentielle, qui est la compétence sociale.
Voilà, Germinal Peyrot, député PS de Dordogne. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un début de prise de conscience citoyenne, Christine Claire, qui dépasse le politique même, là?
Oui, absolument. Et je crois qu'il faut aussi rendre hommage à Angela Merkel, qui a été la première à nous rappeler nos valeurs européennes, à dire que si on n'y était pas fidèle, il n'y avait plus d'Europe. Voilà. Alors, je sais bien que, bien sûr, les anciens résistants que nous sommes tous diront que si l'Allemagne veut accueillir des réfugiés, c'est pour les exploiter. Mais enfin, c'était quand même un beau geste. Et du coup, on s'est senti quand même un peu minable. Nous, les Français, avec nos droits de l'homme et notre fraternité. Mmh. Il était temps que ça réagisse. Oui.
Anne Rosenscher, quand on entend, par exemple, un député, on l'a entendu dans le journal, ça dépasse justement les politiques aujourd'hui qui mettent du temps, qui ont mis du temps d'ailleurs à réagir.
Ils ont mis du temps. Oui, je pense que l'émotion qui est en train de susciter, notamment cette photo d'enfant, cette émotion, il ne faut pas la rejeter. J'ai entendu pas mal de gens qui commencent à la rejeter, ouais. Qui prétendent débusquer un poseur derrière chaque larme, etc. Je pense qu'elle est plutôt saine, mais en revanche, elle ne suffit pas. Et si jamais on veut trouver une solution à ce problème des réfugiés, il va falloir que le politique embraye. Il va falloir qu'on se pose les vraies questions. Alors, les initiatives citoyennes, c'est très bien. Il va sûrement en falloir pour résoudre les questions qui se posent à court terme. La politique des quotas aussi qu'on avait refusé il y a quelques mois. On en reparlera. Ça veut dire qu'il va falloir aussi se poser d'autres questions, c'est-à-dire est-ce qu'on a manqué de courage face à Daesh aujourd'hui, puisque c'est bien pour notamment et beaucoup pour fuir Daesh que ces réfugiés affluent en Europe. Est-ce qu'on a eu une politique étrangère avisée, conséquente? Voilà, ce sont ces questions-là.
Beaucoup de questions,
Oui, mais si vous voulez, il y aurait quelque chose d'obscène si on s'arrêtait juste à l'émotion aujourd'hui. Ça voudrait dire qu'on se regarderait pleurer, si vous voulez, qu'on serait content de pleurer. C'est sain. Moi, je continue de dire que c'est sain et que je... Mais en revanche, il faut surtout pas s'arrêter là.
Emery Doliger, cette photo, on a l'impression que ça a été le déclencheur, alors qu'on a... Il y a des images quand même depuis finalement le début de l'année, de migrants, énormément sont morts en Méditerranée, mais cette image a fait qu'à un moment, tout le monde semble avoir pris conscience en France du drame.
Oui, en communication, il y a toujours un élément déclencheur et la capacité à tout un chacun de recevoir cet élément déclencheur. Là, il se trouve que cet élément déclencheur est cette photo de ce petit bonhomme de 3 ans qui a fait le tour de l'Europe. Mais il y a plein de questions qui se posent d'un point de vue de communication. Pourquoi est-ce que ça a fait le tour de l'Europe, mais pas de la France? Pourquoi est-ce que hier, jeudi, les unes de tous les journaux européens étaient sur cet enfant-là, mais pas en France? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est les mots utilisés. On parle de migrants et d'autres parlent de réfugiés. Ça aussi, ça pose des questions, non seulement autour de l'émotion, mais également d'un point de vue purement politique.
Virginie Petit, alors justement, Anne Rosenthal en parlait. Ce qui est étonnant, c'est la France. Maintenant, alors François Hollande est avec Angela Merkel pour les quotas, contraignant. Mais on se souvient quand même, au mois de mai, c'était hors de question d'avoir des quotas. Manuel Valls, François Hollande n'en voulait pas.
Non, ils n'en voulaient pas. Et puis, il y a eu déjà des propositions, effectivement, de fait, suite à une grande vague d'émotions, suite à des naufrages où il y avait eu 700 personnes qui avaient disparu. Donc, la crainte, c'est aussi qu'à un moment, l'émotion retombe et que voilà, ça disparaisse comme les précédentes initiatives avaient finalement disparu. Cela dit, effectivement, moi j'ai des collègues spécialistes du Moyen-Orient qui me rappelaient que la guerre en Syrie, on en a vraiment pris conscience et elle a véritablement démarré quand on a eu les témoignages et les photos de ces enfants torturés par la police de Bachar el-Assad.
Il y a eu aussi le témoignage du journaliste du Monde.
Du fait que les enfants étaient les victimes.
Alors, Christine Claire.
Oui, je pense que d'autres images avaient suscité la peur. C'était les images de fous, de groupes, ce débarquement sur les voies ferrées, sur les plages, enfin, et ça faisait peur, et c'était souvent des visages aussi, des visages en colère, et des gens qui disaient, mais enfin, c'est indigne, comment on dit. Et tout à coup, ce petit garçon, ça pourrait être le nôtre. On a envie de le prendre dans les bras. C'est nos enfants qu'on a vu jouer sur les plages ces dernières semaines. On se l'approprie. Je crois que l'émotion est beaucoup plus forte quand c'est un petit être humain tout seul, innocent, désarmé. D'autres images peuvent au contraire provoquer la peur ou l'agressivité. Et c'est effectivement ces images de foule qui déferlent. Et ça peut provoquer d'autres émotions. Donc il faut faire attention à l'alternance des émotions.
Anne Rosenthal, c'est quoi? C'est justement cette mobilisation citoyenne qui a fait changer François Hollande et Manuel Valls sur cette idée de quota? Votre avis?
Oui, là, pour le coup, ils ont la concomitance, la concordance du temps fait penser que oui. Mais si vous voulez, je pense que de manière générale, la France n'a pas du tout accepté de penser, de théoriser le problème jusqu'à aujourd'hui. Ce que dit Emery sur la différence entre migrants et réfugiés, elle existe, elle est là. C'est-à-dire que de toute façon, on a refusé justement de regarder qu'il y avait des migrants et des réfugiés, et que les réfugiés méritaient qu'on les reçoive tout de suite, en toute urgence, qu'on voit qui ils étaient et qu'on voit comment on faisait. Mais là où, si vous voulez, je vais quand même les disculper de ne pas avoir pris conscience plus tôt, mais ce que je voudrais juste rappeler, c'est qu'au moment où je me souviens, la France avait refusé la politique des quotas, les Italiens d'ailleurs nous le reprochaient. Moi, je me souviens, j'étais d'être allée en Italie à ce moment-là, Matteo Renzi était au sang-coup en disant, mais vous êtes inhumains, parce qu'eux, ils voyaient débarquer ces réfugiés et ils ne comprenaient pas pourquoi on pouvait faire ça. Et je me souviens qu'à l'époque, le discours de Manuel Valls, mais même d'autres, était de dire « mais si on accepte ça, on fait grimper le Front National ». Et je pense que c'est dire à quel point le Front National est en train de truster comme une espèce de d'épouvantail toutes nos réactions. C'est-à-dire que finalement, on n'arrive plus à juger, à s'ajuster en fonction de ce qu'on pense réellement, de la complexité des problèmes. On met des voiles comme ça parce qu'on se dit « mon Dieu, qu'est-ce qui va faire grimper le Front National ?» En vérité, on n'a pas vu qu'il fallait très très vite accueillir ces gens-là.
Virginie Petit, justement en Europe, on a vu aujourd'hui, il y a une chose assez étonnante, c'est que les Britanniques, qui étaient très hostiles quand même, hein, qui sont les premiers, aujourd'hui, on dit finalement on va accueillir des réfugiés. Il y a quand même un geste assez étonnant quand même de la part de la Grande-Bretagne.
Il y a eu plusieurs gestes. Il y a le quotidien The Independent qui a fait signer une pétition. Ce matin, ils avaient plus de 200 000 signatures. Il a mis ça en une. Et David Cameron est clairement fustigé pour son attitude qui est quand même très très ferme sur ce sujet-là. Eux, ils se sont complètement... ils ont complètement changé d'avis. Mais enfin, les Britanniques sont très émotifs aussi.
Je suis désolée, mais c'est vrai.
Inventer la télé-réalité, c'est pas pour rien. Ils adorent être submergés d'émotions. Et là, en l'occurrence, c'est louable, et voilà, mais c'est pareil, hein, on ne sait pas du tout quel sera le contre-coup. UKIP est quand même toujours en veille, voilà, pardon, le parti
d'extrême droite xénophobe.
Voilà.
Emery de Huchet, il y a aussi, on en parlait tout à l'heure, on va en parler un instant du Front National, mais il y a une personne qui n'a pas réagi. C'est aussi le président du premier parti d'opposition en France, n'a toujours rien dit là, sur les migrants. Est-ce que finalement, aujourd'hui, il y a un silence qui se fait à droite, parce que Brice Hortefeux a dit qu'il était contre les quotas, mais Brice Hortefeux, ce n'est pas Nicolas Sarkozy.
Il y a une université d'été qui va se tenir pendant ces deux jours, et il ne serait pas étonnant qu'il y ait quelque chose de prononcé à ce moment-là, quand on voit les propos de Marion Maréchal Le Pen, qui a dit aujourd'hui qu'on était en train d'instrumentaliser une mort, parce qu'évidemment, ça ne lui sert pas à elle. On pense qu'il va y avoir une réponse, je ne suis pas étonné.
Mais sur Nicolas Sarkozy, c'est ça.
Non, mais j'entends bien, vous voulez m'emmener, mais...
c'est un piège.
J'ai bien compris. Je préfère aller sur le Front National, c'est beaucoup plus drôle. Mais sur Nicolas Sarkozy, qu'est-ce que vous voulez qu'il réponde quand Éric Ciotti dit le 25 août qu'il faut être très ferme et qu'aujourd'hui il déclare, bah non, pas du tout, on va peut-être revenir sur cette idée-là.
Excusez-moi, mais au moment de la politique des quotas, il avait dit quelque chose, Nicolas Sarkozy.
Sur la fuite d'eau.
Oui, donc, non, mais juste rappelons-le. C'est-à-dire que c'était la fameuse métaphore de la fuite d'eau et du plombier qui serait
capable de changer.
Christine, voilà, alors on va y revenir dans un instant. On va y revenir dans un instant, mais il est 20h15 sur France Info. Les titres, Emmanuel Langlois.
La solidarité qui s'organise en Europe pour l'accueil des réfugiés. David Cameron, le Premier ministre britannique, annonce que le Royaume-Uni va accueillir des milliers de Syriens supplémentaires. Sur le terrain, la Hongrie durcit ses lois contre les migrants. Faute de train, des centaines de réfugiés quittent le pays à pied pour tenter de gagner l'Autriche à 175 km de là. Les tarifs réglementés du gaz, ils vont baisser d'1,5% 1er octobre, croit savoir le Figaro. 7 millions de ménages français sont concernés. Le bras de fer continue à Air France entre direction et syndicats. Les dirigeants menacent de nouvelles suppressions de postes si les négociations avec les pilotes pour réduire les coûts n'aboutissent pas d'ici la fin du mois. La disparition de Sylvie Joly, la comédienne et humoriste, avait 80 ans. Elle s'éteint après une carrière de plus de 40 années interrompue par la maladie de Parkinson. Benoît Paire qualifié pour les huitièmes de finale de l'US Open. Le Français a battu l'Espagnol Tommy Robredo. Qualification également. Et là aussi, c'est une première de Kristina Mladenovic. Du foot et l'équipe de France face au Portugal de Cristiano Ronaldo en vue de l'Euro 2016 ce soir. Les Bleus qui restent sur 3 défaites en 4 matchs et vont tenter de se ressaisir. Coup d'envoi du match à 20h45.
20h-21h, France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir la journaliste Christine Claire, Anne Rosenscher de Marianne, Virginie Le Petit de Courrier International et le communicant Emery Doliger. Bon, en fait, maintenant on en est sûr, Marine Le Pen est en pleine crise d'adolescence, hein, à 47 ans. La preuve qu'au Front National, les femmes sont totalement libres de penser ce qu'elles veulent. Une fois qu'elles sont majeures, à 63 ans, elles peuvent dire tout ce qu'elles veulent. Mais Marine Le Pen, elle est une vraie ado. Elle fait tout pour embêter son père et comme celui-ci lui interdit d'utiliser les réseaux sociaux, elle s'est même créé un compte Twitter en douce pour parler avec ses copains. Problème, des journalistes du Monde et de Libération ont découvert qu'elle se cachait sous le pseudonyme, enfin elle se cacherait sous le pseudonyme de Anne Lalanne. Et oui, Marine Le Pen nie farouchement, mais étrangement, parmi ses abonnés ne figurent que des cadres du Front National. La coïncidence est terrible tout de même. Une petite anecdote qui ne fait pas oublier les positions de Marine Le Pen, sa place de deuxième partie de France et une ambiance dans le pays qui l'a fait prospérer. S'il n'y avait pas son père, tout irait bien pour Marine Le Pen, mais le souci, c'est qu'il y a son père.
Nous avons une énorme différence stratégique. Nous sommes d'accord sur un certain nombre de choses, ça vous échappera pas, sur l'immigration, mais nous n'avons pas le même parcours, nous n'avons pas la même manière de voir les choses, ni évidemment, c'est le moins qu'on puisse dire, de les dire. Mais lui pense que le Front National doit avancer grâce aux polémiques et il organisait en quelque sorte des polémiques récurrentes en choquant et je considère que cette attitude n'est pas admissible.
Donc, voilà Marine Le Pen parlant de son père, donc ce matin sur RTL. Christine Claire, juste au départ, avant d'aller dans le fond, c'est marrant cette histoire de Twitter, quand même, de compte Twitter, Marine Le Pen, non? Est-ce que ça vous étonne ou au contraire? Parce que c'est pas la première politique à le faire.
Je dis rien ne m'étonne.
Plus rien ne vous étonne, c'est ça?
Oui, enfin, c'est un petit enfantillage. Oui, Lalanne, c'est le nom de sa mère.
Exactement,
Kirette,
voilà.
Oui.
C'est ça.
Alors, Anne, je ne sais pas si
c'est
son deuxième
prénom.
Oui, oui, oui.
C'est,
ce qui est amusant, c'est que, oui, politiquement, Pierrette, elle était plus proche de Jean-Marie, même encore tout récemment, que de la ligne Florent Philibault, qui lui est rejeté par l'ensemble de la famille.
Ah oui, donc en fait, finalement, ça embrouille tout, cette histoire de Twitter. Emery de Higelet, c'est marrant quand même, cette histoire de Marine Le Pen qui se crée un faux compte.
Oui, mais François Fillon l'avait fait aussi. Ça lui permettait de surveiller l'air de rien, ce qui se passait. Et puis, je suis allé sur le compte de cette Anne Lalanne et j'ai vu qu'elle avait également retweeté Julien Bayou, qui est un des réguliers informés d'ici.
Porte-parole d'Europe Écologie Les Verts.
Donc, c'est une façon peut-être à elle de s'informer.
C'est ça. Juste une chose sur les pseudonymes justement utilisés. Vous l'avez dit, François Fillon, qui s'était fait avoir aussi par des journalistes, c'était François de Beauce. Paul Bismuth, donc on se souvient, pour Nicolas Sarkozy. Et donc Anne Lalanne pour Marine Le Pen. Ça en dit quelque chose sur les attitudes des hommes politiques, Anne Rosenscher, justement?
Non, mais la différence quand même, c'est vrai qu'il y avait eu le précédent Fillon. La grande différence, c'est que Fillon, je crois, ne s'en était pas servi pour tweeter ou retweeter. Là, ce qui est l'inédit, c'est qu'en fait, c'est une femme de politique de premier rang qui utilise un pseudonyme pour le coup diffuser un message, une information. Donc bon, après, il faudrait se plonger dans les différences. Ce qui pourrait être intéressant, voilà, c'est de faire une étude comparée. J'espère que certains vont le faire entre les abonnements de Marine Le Pen sous pseudonyme avec les abonnements d'elle en clair. Comme ça, on verrait un petit peu, puisque tout le monde dit il faut débusquer Marine Le Pen, etc. S'il y a des différences, voilà, si par exemple elle se permet de retweeter F de Souche sous son pseudonyme mais pas à visage découvert, on va dire, là ce sera en effet intéressant.
Alors Christine Claire, donc demain commence donc l'université d'été du Front National. On continue encore finalement dans cette guerre familiale. Jean-Marie Le Pen va aller à Marseille, pas forcément à l'université d'été, mais organiser un point presse.
On ne sait pas s'il va monter avec sa veste rouge ou avec une veste bleue ou jaune.
Il fait quoi en fait? Il s'amuse, il fait quoi? Pourquoi il fait ça, à votre avis?
Non, je pense que c'est toute sa vie. C'est toute sa vie qui est en jeu. Il s'est toujours battu sur cette ligne. Il a créé son parti et on lui enlève son enfant. Il tient à être là, à marquer sa ligne, à marquer sa présence. Sinon, il est mort. Sinon, il meurt, mais même physiquement. C'est vraiment une question de survie, je crois.
Ah d'accord. Donc on en est là. Donc c'est pour
on
ça.
En est là.
D'accord.
mais c'est toute sa vie. Il a tout sacrifié. Non, parce que c'était sa passion. Mais c'est vrai qu'il a sacrifié ses enfants. Marine, il s'en est pas occupé du tout, ni les autres d'ailleurs. Il n'a vécu que pour ce combat politique.
Emery Degé, on a vu que ça n'avait aucune incidence sur la courbe de Marine Le Pen.
Pour l'instant, mais on va le voir dans les prochaines élections régionales s'il se passe quelque chose. Il est évident que cette espèce de feuilleton plus proche d'un feuilleton à la Dallas, très médiatique, est un côté un peu pathétique, mais politiquement, pour l'instant, les messages continuent de passer.
Non, mais la vraie déchirure, elle peut être politique, c'est-à-dire que quand on voit dans l'Est, je crois que Karl Lang, ancien du Front National, un peu canal historique, est en train de lancer une liste dissidente à celle de Florian Philippot pour les régionales, avec des anciens du Front National, que Jean-Marie Le Pen, je crois, a évoqué plusieurs fois la possibilité de lancer une liste dissidente dans le Sud, en PACA. C'est-à-dire que finalement, derrière le psycho drame familial et politique se joue quand même désormais la survie du Front National, en tant que jusqu'à maintenant ils ont essayé de nous faire croire qu'ils étaient plus cohérents que les autres partis politiques, si vous voulez, que eux ils étaient derrière Marine Le Pen, Florian Philippot, et que de temps en temps le vieux les embêtait avec un dérapage. En vérité, non, ils restent dans leur électorat et dans leur cadre deux lignes extrêmement et bien malins qui peuvent vous dire quelle est la proportion de ceux qui sont plutôt derrière Philippot et ceux qui sont plutôt derrière la ligne Jean-Marie Le Pen, on va dire. Donc c'est à cette aune-là, plus qu'à l'aune des dégâts de communication, si vous voulez, qu'il faudra mesurer les effets politiques de la crise que traverse le Front National.
Allez, les informés de France Info, on revient juste après ça.
Dis donc, septembre, ça te rappelle rien à toi ?
Non, je vois pas du tout.
Oubliez la rentrée. Ce samedi, jackpot loto de 10 millions d'euros. Montant à partager au rang 1, voire règlement. Jouer avec XC comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. France Info.
Et à 20h23, c'est l'heure des titres d'Emmanuel Langlois.
Et la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, qui appelle à un grand rassemblement. Ce sera vendredi prochain, le 11 septembre, au musée de l'histoire de l'immigration dans l'est de Paris. Face, dit-elle, à la tragédie des migrants. Aylan, le petit garçon syrien de 3 ans, découvert mort sur une plage turque et dont la photo a fait le tour du monde, a été enterré aujourd'hui avec son frère et sa mère dans leur ville de Kobané, dans le nord de la Syrie. Des centaines de personnes ont assisté à cette cérémonie. La société d'emballage pour boissons Sidel supprime 360 postes, dont 190 dans son usine principale d'Octeville-sur-Mer, près du Havre, en Seine-Maritime. Au lendemain de la manifestation des agriculteurs à Paris, le conseil départemental du Loir-et-Cher débloque 300 000 euros, une aide exceptionnelle destinée aux éleveurs du département. L'argent ira aux exploitants les plus en difficulté. Rentrée des classes à Lisbonne ce soir pour les Bleus, fragilisés par 3 revers en 4 matchs. L'équipe de France doit réagir face au Portugal de Cristiano Ronaldo en vue de l'Euro 2016. Le match tout à l'heure à 20h45. Et puis pour la première fois de leur carrière, Benoît Paire et Kristina Mladenovic qualifiés pour les 8e de finale d'un tournoi du Grand Chelem. Les deux Français ont battu avec brio aujourd'hui leur adversaire du 3e tour de l'US Open à Flushing Meadows.
20h-21h, France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernat.
Les informés de France Info, on parle donc de l'université d'été du Front National qui s'ouvre demain. Il y aura énormément de journalistes qui guetteront l'arrivée de Jean-Marie Le Pen. Mais pour aller dans le fond, tout à l'heure, Anne Rosenscher, vous parliez justement de ce Front National qui fait un petit peu, qui est un peu la boussole aujourd'hui du monde politique français. On a peur ou au contraire, certains se réjouissent par rapport à tous les sujets. Virginie Petit, c'est ça peut-être le succès aujourd'hui du Front National, c'est d'être la sorte de pierre angulaire, c'est-à-dire que maintenant on ne réagit que par rapport à ses succès.
Oui, ça peut être effectivement, en tout cas, il muselle en quelque sorte les autres partis sur un certain nombre de sujets, et c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure. Et oui, c'est un succès de fait, puisqu'il est omniprésent, et même quand il ne s'exprime pas, il est toujours là, puisqu'on se réfère à lui immédiatement. Donc c'est regrettable, c'est un manque de courage patent de la part des autres partis, mais voilà, c'est comme ça. Hein.
Christine Claire, vous l'avez vu en suivant justement la politique, vous l'avez vu évoluer aussi ce parti, le Front National. On peut le dater justement de quand véritablement, ce moment où les autres partis se sont intéressés, à partir du moment où ça marque électoralement.
À partir du moment où il y a des scores électoraux, parce que c'est vrai qu'au départ, c'était vraiment pas grand-chose. Je crois que c'est quand même 2002 le grand tournant. Hein. C'est la grande peur tout à coup.
Jean-Marie Le Pen au second tour.
Oh là là, ils peuvent arriver au pouvoir. Oui, ouais. c'est... Et puis c'est l'ensemble de l'Europe. On voit bien les partis populistes progresser. Non, ce qui se passe actuellement, ce qui est intéressant, c'est quand même que c'est la première fois qu'il y a un appel à la générosité. On dit aux Français, vous êtes des gens généreux, on va accueillir, il y a une espèce de compétition maintenant. Alors que jusqu'à présent, depuis des années, on ne faisait appel qu'à nos intérêts, à notre peur, notre argent, notre retraite. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais ça peut avoir des conséquences quand même sur la place prise par le Front National, qui ne propose pas d'objectifs généreux.
Ah non, c'est sûr. Virginie Petit, vous vouliez rajouter ?
Oui, sur le grand changement, ouais. Pour moi, c'est... Alors, même si c'était extrêmement symbolique, l'arrivée de Le Pen au second tour.
En 2002.
L'arrivée du Front National à la gestion municipale, moi, je pense que réellement, là, il s'inscrit en profondeur dans quelque chose, dans le quotidien des Français, en tout cas de certaines communes. Il montre qu'il peut gérer quelquefois. Et là, pour moi, on rentre dans quelque chose qui est plus de l'ordre du symbolique. Vraiment, il a pris sa place.
Anne Rosenscher, on a vu aussi cette semaine, quand même, les partis des Républicains qui sont distingués, hein, comme Bruno Le Maire, assez étonnamment, qu'on pensait que c'était une branche plus sociale, finalement, des Républicains, qui souhaitent désormais la double peine pour les étrangers coupables de terrorisme, comme Marine Le Pen, finalement. On voit que, quand même, les Républicains, ça se durcit, véritablement, par rapport à ça. Donc, ils se fixent aussi par rapport à ça. Ils braconnent sur les terres du Front National.
Oui, c'est le si vous voulez, le centre de gravité des Républicains. C'est au fil des années déporté vers sa droite, parce que justement il y a cette idée d'aller récupérer les électeurs qui lui ont été pris par le Front National. Donc c'est vrai que parfois ça donne lieu à ce genre de déclaration, alors que Bruno Le Maire à la base n'est quand même pas aussi il y a quand même une évolution là-dedans.
Alors, et ça marche pas vraiment quand même, parce que c'est lui qui avait déclaré au mois de mai parler comme le FN, c'est donner du carburant au FN.
Le problème, si vous voulez, c'est que cette instauration des primaires, juste excusez-moi, elle a quand même une espèce de c'est bancal démocratiquement, c'est-à-dire que pour séduire les militants, le cœur des militants, ils vont faire une campagne plutôt très à droite, alors que finalement, quand on regarde les sondages des Français, si vous voulez, de ce que préféreraient finalement les gens, Juppé ferait des meilleurs scores que Nicolas Sarkozy. Mmh. Donc, cette espèce de d'effet paradoxal de nouvel effet de Condorcet, pour ceux qui connaissent, c'est un petit peu dommageable pour l'état de notre démocratie. C'est la même chose à gauche, Christine, oui, tout à fait.
En fait, je voudrais juste vous rappeler que il y a une époque, les partis non du Front National, opposés au Front National, se sont bagarrés pour essayer de récupérer le fameux symbole du drapeau, le blanc. Donc, afin de faire en sorte que le Front National n'ait pas ce drapeau comme bannière et que le drapeau appartient à tout le monde. Ça a très bien fonctionné. Là, ce qu'on voit avec Bruno Le Maire et la double peine, ça procède du même système. C'est-à-dire qu'on ne va pas laisser au Front National la possibilité d'utiliser un certain nombre de discours, de postures, etc., et qui vont être servis que par le Front National. Donc l'intérêt des politiques, c'est aussi d'aller non pas braconner pour récupérer des électeurs, mais de dire les choses comme ils les pensent.
C'est la fameuse droite décomplexée.
Et ça sort aussi du jeu des peurs. Et ça, c'est très intéressant.
Il faut voir aussi ce que leur disent leurs propres électeurs. Bruno Le Maire, dans sa circonscription, ses électeurs ex-UMP, ils se plaignent beaucoup de l'immigration. Myriam El Khoumri, la nouvelle ministre, moi, j'avais suivi en campagne, ses électeurs socialistes, dans des réunions socialistes, venaient la voir pour lui dire on en a assez des Roms, on n'en peut plus. C'est pas forcément les électeurs d'à côté qu'on veut récupérer, c'est ses propres électeurs.
Pour terminer, Virginie Petit.
Oui, le message porte et au-delà de nos frontières. Hein. La France n'est plus du tout la première destination quand les gens cherchent en tout cas un statut de réfugié. On est loin, loin derrière plein d'autres pays d'Europe. Et voilà. Donc, de toute façon, ce message-là, il est quand même assez universel. On n'est plus une terre d'accueil, de toute façon.
20h30 sur France Info. L'heure de retrouver le journal de Frédéric Beignada, bonsoir.
Bonsoir, l'équipe de France de football affronte le Portugal ce soir à Lisbonne en match de préparation à l'Euro 2016. Une équipe de France qui n'a pas beaucoup rassuré ces derniers temps avec 3 défaites en 4 matchs, Sébastien Hazard.
Ah, il faut que ça change, effectivement. Alors ce soir ce sera peut-être compliqué parce que c'est le Portugal, même si les statistiques plaident en faveur des Français. Les Portugais n'ont plus battu l'équipe de France depuis 40 ans et ce n'était pas au Portugal, c'était à Colombes, c'était en 1975. Depuis, les Français s'impose toujours, mais c'est vrai, vous le disiez, l'équipe de France est en panne de résultats. 3 défaites lors des 4 derniers matchs, des défaites contre le Brésil, contre la Belgique, c'est encore acceptable, mais lors du dernier match de la saison, c'était en Albanie, et là, c'est beaucoup plus discutable. Alors, Didier Deschamps a effectué quelques changements, notamment la première titularisation de Nabil Fekir, la pépite lyonnaise. Pour la première fois, l'attaquant va débuter aux côtés de Karim Benzema. Il a changé également de système en passant à 2 attaquants avec Benzema et Fekir. Et puis, au milieu de terrain, on verra cette association entre Matuidi, entre Sissoko et Paul Pogba. Nous verrons ce que ça va donner en espérant, évidemment, des buts et un résultat positif pour les Français. Début du match dans un quart d'heure maintenant.
Sébastien Hazard, l'Europe enfin mobilisée face à la crise des migrants après la publication hier de la photo du corps d'un jeune garçon de 3 ans noyé sur une plage de Bodrum en Turquie. Les initiatives se multiplient pour faciliter l'accueil des réfugiés. La France et l'Allemagne sont à la manœuvre sur la question des quotas, un terme que refuse d'employer Bernard Cazeneuve. Le ministre de l'Intérieur préfère parler de mécanisme de répartition solidaire, mais la question se pose déjà d'organiser dans la durée cette solidarité qui ne fait pas l'unanimité. La Hongrie vient d'ailleurs de renforcer ses lois contre les migrants. Le couple franco-allemand doit convaincre les pays de l'Est. Prague et Bratislava proposent notamment un couloir ferroviaire pour les réfugiés entre la Hongrie et l'Allemagne. En France, des élus socialistes lancent un appel à un réseau de villes solidaires. La Dordogne doit prendre sa part dans l'accueil des réfugiés. Le président socialiste du département, le député Germinal Peiro, demande aux 557 maires du Périgord d'accueillir des réfugiés syriens.
J'appelle les maires de toutes les communes du département à participer à ce mouvement d'accueil qui va se mettre en place dans notre pays, parce que c'est tout simplement notre devoir d'être humain. La Dordogne, ça a toujours été une terre d'accueil. Je rappelle aux Périgourdins qu'en 1940, au début de la Deuxième Guerre mondiale, on a été capable dans ce département d'accueillir entre 70 et 80 000 réfugiés qui sont venus d'Alsace. C'était un vrai élan de solidarité. On ne peut pas laisser mourir des gens dans des bateaux. On ne peut pas laisser des gens qui sont chassés par la guerre. On ne peut pas les laisser mourir au milieu de la Méditerranée. Aujourd'hui, il y a un devoir humain à remplir. Et j'appelle les Périgourdins à ce qu'on remplisse collectivement ce devoir. Et le département, je m'y engage, prendra sa part. Je ne veux pas dire de nombre, mais nous accompagnerons toutes les collectivités qui s'engageront financièrement, bien sûr, c'est de ça que je parle. Et on le fera financièrement à travers notre compétence essentielle, qui est la compétence sociale.
Célèbre pour ses one-woman shows drôles et féroces à souhait, inspiratrice de nombreux comiques, Sylvie Joly s'est éteinte aujourd'hui après une carrière de plus de 40 ans. Elle souffrait de la maladie de Parkinson. Sylvie Joly avait 80 ans. Le bras de fer à Air France, la direction menace de réduire la voilure sur le long courrier. Si les syndicats refusent le nouveau plan de restructuration de la compagnie, faute d'accord, l'offre long courrier pourrait être diminuée de 10%, ce qui entraînerait des départs contraints. C'est officiel, les tarifs réglementés du gaz vont baisser de près de 1,5%. Au 1er octobre, 7 millions de ménages français sont concernés. L'herbe au lauré à Canal+, la directrice générale d'ITélé, Cécilia Ragneau, et la directrice de la rédaction de la chaîne, Céline Pigalle, quittent le groupe remplacé par Guillaume Zeller. Les places financières, la Bourse de Paris termine en baisse de 2,81% à 4 523 points.
Merci Frédéric Beignada. Nous on file à Météo France.
France Info Météo avec Calipage, toute la papeterie et toutes les fournitures scolaires. Rendez-vous dans un de nos magasins ou sur calipage.fr.
Élodie Calac.
L'été n'a pas dit son dernier mot. Demain, ce sera souvent nuageux, surtout au nord de la Loire, avec un peu de grisaille le matin, quelques averses l'après-midi. Sur les Pyrénées, beaucoup de nuages, quelques averses aussi, tout comme sur les Alpes et le Massif central l'après-midi. En Méditerranée, le soleil s'imposera, mais le vent se renforcera jusqu'à 80 km à l'heure, parfois 100 sur la Balagne et le relief Corse. Il fera frais, 16 à 22 degrés l'après-midi, mais encore 25 à 28 dans le sud-est. Dimanche, le soleil gagnera du terrain par l'ouest, ça restera plus encombré de la frontière belge au nord-est avec quelques averses. La semaine prochaine, l'anticyclone prendra ses quartiers avec des grisailles le matin, puis du soleil. Lundi, les averses seront rares, limitées aux frontières du nord. Elles disparaîtront mardi. Les températures retrouveront quant à elles des allures estivale à partir du milieu de semaine. Ce n'est que le week-end suivant que le temps pourrait à nouveau se dégrader avec un ciel mitigé, quelques pluies, mais dans une ambiance qui devrait rester douce.
20h-21h, France Info, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, donc jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, bien sûr, avec le hashtag Les Informés, avec ce soir la journaliste Christine Claire, Anne Rosenscher de Marianne, Virginie Le Petit de Courrier International et le communicant Emery Doliger. Savoir danser, porter des vêtements moulants, faire des poses suggestives et maîtriser Instagram, voilà les nouvelles armes des féministes, enfin celles qui se définissent ainsi, comme Beyoncé qui fête ses 34 ans aujourd'hui. Et oui, nouveau souffle pour le féminisme ou pas, à voir. On en parle à 20h45, car avant, on parle des 35 heures, savoir danser, porter des vêtements moulants, faire des poses suggestives et maîtriser Instagram. Voilà ce que certains font de leur temps libre grâce aux 35 heures. En fait, c'est incroyable, on a trouvé la phrase qui passe partout, c'est pratique pour les lancements. Enfin bref, l'esprit des 35 heures est actuellement malmené, mis en place en 2000 dans l'idée que le travail n'est pas tout dans une vie. Elles sont aujourd'hui remises en cause par de nombreux politiques à droite comme à gauche, mais également par les Français de droite comme de gauche. Ainsi, une étude publiée aujourd'hui dans le quotidien Les Échos montre que 71% des Français se disent favorables à ce que les entreprises puissent fixer librement le temps de travail. Les sympathisants de droite soutiennent cette idée, mais plus surprenant, les sympathisants socialistes sont aussi majoritaires à s'inscrire dans cette tendance. Une tendance donc ignorée le 28 août dernier par le Premier ministre quand on lui demandait déjà s'il y aurait une remise en cause des 35 heures, Manuel Valls.
Les débats sur le passé ne m'intéresse pas et n'intéresse pas les Français. Il n'y aura pas de mise en cause, de remise en cause de la durée légale du temps de travail et des 35 heures. Beaucoup a déjà été assoupli pour permettre aux entreprises de négocier des assouplissements. Mais encore une fois, ce qui intéresse nos compatriotes, c'est l'avenir. Ce sont les vrais sujets, l'emploi, la croissance.
Voilà, Manuel Valls. Anne Rosenscher, il va devoir revoir son jugement. Manuel Valls, on voit qu'en ce moment, les 35 heures sont malmenées, hein.
Non, il va pas devoir revoir son jugement. Je pense qu'en fait, on se trompe souvent quand on parle de cette question parce qu'on confond le débat sur le temps de travail, ouais, et le débat sur la loi des 35 heures. C'est-à-dire qu'avoir un débat sur le temps de travail, moi, je trouve ça assez sain. C'est-à-dire que, voilà, les gains de productivité au cours du dernier siècle ont fait que il y a une question autour du temps de travail qui s'est posée et ne pas le voir. Je pense que c'est être dans le déni. Par exemple, on cite tout le temps l'Allemagne. Cette fois, l'Allemagne l'Allemagne, par exemple, quand on regarde le temps de travail de l'Allemagne, il n'est peut-être pas officiellement à 35 heures, mais le temps, les temps partiels des salariés allemands, c'est, je crois, 28% contre moins de 20% en France, ou même 19%. Et les femmes actives allemandes, il y en a 40% qui sont à temps partiel. Donc, si vous voulez, c'est quand même, d'une façon ou d'une autre, une façon de réduire le temps de travail, donc on le veuille ou non. Donc, je pense que ça, c'est un débat sain. Qu'en revanche, les 35, on peut être, si vous voulez, dans ce débat-là économique, et pour autant ne pas forcément avoir été pour la loi des 35 heures telle qu'elle a été pensée et appliquée en France, parce qu'on sait qu'elle a surtout bénéficié aux grands groupes qui en ont profité pour annualiser le temps de travail, pour flexibiliser, etc. Que les PME ont été plus au sans-coup, que dans l'hôpital, c'est en train de se transformer en désastre. Donc voilà, oui, je pense qu'on peut ouvrir le débat sur les 35 heures sans pour autant jeter le bébé avec l'eau du bain, si je puis me permettre, et se dire que finalement, il n'y a aucun débat sur le temps de travail dans l'économie du 21e siècle.
Et pourtant, vous avez raison, mais sur les 35 heures, on a vu qu'il y a eu une petite fixation. On a vu Emmanuel Macron qui a fait cette sortie au MEDEF. Manuel Valls en avait parlé dans une interview à l'Obs aussi. C'est pas un tabou, les 35 heures.
Manuel Valls militait pour l'abolition des 35 heures quand il s'est présenté aux primaires en 2011. Bon, donc, comme il est habile et très bon politique, il a mis ça de côté. C'est pas la peine d'énerver tout le monde, il le sait. Mais ce que je trouve intéressant dans ce sondage là des Échos, c'est que finalement on voit la continuité de l'opinion des sympathisants de gauche comme ceux de droite qui plébiscite Valls, justement, qui était sur cette ligne, qui plébiscite Macron et qui maintenant plébiscite une réforme en tout cas sur le temps de travail. Il y a quand même un glissement. Alors, on pourrait dire à droite, ou vers plus de libéralisme, ou plus d'ouverture, ou plus de débat à l'intérieur de l'entreprise, ou de négociation. Mais il y a un glissement de l'opinion française qui est continu. Ça fait que confirmer, effectivement, tous les sondages en faveur de Valls, qui est considéré comme beaucoup plus libéral sur cette question, et de Macron.
Cette branche justement libérale au PS a longtemps été minoritaire. Vous pensez aujourd'hui qu'elle va vraiment devenir majoritaire, Christine Claire?
Je ne sais pas, il y a toujours une grande résistance des idéologies, et puis on est dans un système, dans une constitution telle qu'il faut qu'il y ait un camp de gauche contre un camp de droite au moment des élections. Mais après, finalement, on gouverne plutôt au centre. Mais je pense que quand même, c'est grignoté, les idéologies de droite et de gauche. Alors, ça ressurgit sur d'autres sujets comme l'immigration, peut-être. Mais sur les entreprises, le comportement des Français vis-à-vis de l'entreprise, je trouve que ça évolue. Quand les grands patrons se prennent des retraites faramineuses.
Alors ça, oui, exactement. Virginie Petit, oubliez.
Oui, je suis même pas sûre que de toute façon cette question et le débat sur les 35 heures aura lieu, parce que la chose vers laquelle s'oriente plus Valls, c'est ce qu'appuyait le rapport de Terra Nova il y a deux jours, c'est-à-dire des réformes qui ont lieu point par point, ponctuellement, dans chaque entreprise, et qui sont négociées entre les salariés de l'entreprise et l'entreprise.
C'est très étonnant de voir Terra Nova proche quand même du PS donner des idées comme ça très libérales. On dirait presque Serge
cette
Dassault.
Elle avait déjà été soutenue par Macron, me semble-t-il. C'est pas quelque chose d'extrêmement nouveau. Et ça, de toute façon, fait que si on s'oriente vers un droit du travail qui est, on va dire, décentralisé, comme ça, il y aura pas besoin d'un débat sur les 35 heures, puisque ça se fera dans chaque entreprise avec plus ou moins de bonheur. Ça, on verra. Mais voilà, c'est.
Emery de Ligé, sur ces 35 heures. C'est étonnant parce que la philosophie des 35 heures aussi, à la base, hein, si on reprend sans idéologie, on va essayer de faire ça, c'est travailler moins pour vivre mieux. Non, mais travailler moins pour vivre mieux. Ça veut dire qu'aujourd'hui,
c'est la société de loisirs.
Voilà, ça on l'abandonne pour beaucoup de Français.
Je ne sais pas si on l'abandonne, mais pardon de ne pas vraiment répondre à votre question, ce qui m'amuse, c'est dans cette partie-là, c'est la communication politique. On voit que progressivement, des mots arrivent, le mot assouplissement dans la bouche de Valls, Macron qui tape un peu plus fort, et puis il y a un rétropédalage. Et puis là, ce sondage qui tombe comme par hasard, mais très très bien, au bon moment, avec quelque chose de bien pensé, bien huilé. Et puis dans ce sondage, on voit que quand même 50% des gens du front de gauche sont d'accord avec l'idée que peut-être les 35 heures pourraient être abandonnées. Donc on est dans une séquence de communication politique autour des 35 heures qui, évidemment, on ne fera pas en sorte d'arrêter les 35 heures. En façade, il y aura toujours les 35 heures. Mais derrière, il y aura tous ces assouplissements, tout le monde est d'accord, le monde change, et donc les 35 heures vont changer. On est dans de la communication politique pour moi, pas sur autre chose.
Et à tel point d'ailleurs, moi ce qui est intéressant, c'est le sondage de nos confrères, il est très intéressant. Il évite consciencieusement de poser les questions qui fâchent, c'est-à-dire 39 heures, enfin payer combien, c'est-à-dire pour l'instant il y a déjà des dérogations aux 35 heures, elles ont été faites, oui, mais notamment dans des entreprises, dans le cadre de négociations avec les syndicats, quand il s'agit de sauvegarder de l'emploi, de sauvegarder une usine ou que sais-je, et dans ces cas-là, c'est appliqué, ça correspond à une baisse de salaire, les gens sont payés pareil, donc si vous posez la même question aux gens avec « Êtes-vous d'accord pour flexibiliser les 35 heures en restant payé tel que vous êtes payé aujourd'hui ?» Je peux vous dire que votre sondage, il n'a plus la même tête du tout à l'arrivée. Et là, même parmi les gens de droite, vous allez avoir du « Non, 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 non !» Donc, c'est là où...
C'est pour ça, voilà, votre...
Essayons d'éviter les gros sabots tout le temps.
C'est pour ça qu'à Anne-Rosenscher, il y a cette question qu'on se pose souvent, c'est... Bon, les Républicains, anciennement l'UMP, tapent toujours sur les 35 heures, mais au pouvoir, ils ne les ont pas abolis ?
Non, mais écoutez,
c'est bizarre quand même.
Ils les ont un peu assouplis. Il y a eu quand même des assouplissements des 35 heures, les possibilités de revenir. Le fameux travailler plus pour gagner plus. Oui, voilà, le fameux. Oui, non, mais depuis, il a tellement été tordu et retordu dans tous les sens, mais qui était la défiscalisation des heures supplémentaires pour les employeurs et pour les salariés. C'était une façon, qu'on le veuille ou non, d'assouplir les 35 heures. Voilà. Donc, mais pour l'instant, c'est vrai que personne n'a osé. Et je vais vous dire, les premiers à résister là-dessus, c'est pas le front de gauche, c'est les grands groupes qui disent « Mais aujourd'hui, vous n'allez pas nous décricoter les 35 heures, on a gagné beaucoup d'argent grâce à ça. » Donc arrêtons d'être dans la simplification.
Virginie Petit, vous voulez rajouter ?
Oui, alors vu depuis la Grande-Bretagne, c'était The Independent qui disait ça, ils ont l'impression que la gauche française est en train de faire en fait ce qu'avait fait le Labour il y a 18 ans, c'est-à-dire se réformer pour effectivement devenir quelque chose, une démocratie sociale, enfin démocrate. Oui. Alors même que justement la Grande-Bretagne est en train d'abandonne totalement le blairisme. Oui. Donc c'est assez rigolo. Je suis pas sûre que ça fonctionne.
On va juste continuer à en parler un tout petit peu parce que j'ai encore 2-3 questions à vous poser, mais pour l'instant il est 20h45 sur France Info. Lors des titres, Frédéric Benyadam.
Après le choc Hélène, la solidarité s'organise pour accueillir les réfugiés, mais toute l'Europe n'est pas d'accord. La France et l'Allemagne sont à la manœuvre sur la question des quotas, mais le couple franco-allemand doit encore convaincre les pays de l'Est. Célèbre pour ses one-woman shows, drôle et féroce à souhait, inspiratrice de nombreux comiques, Sylvie Joly s'est éteinte aujourd'hui, elle avait 80 ans et souffrait de la maladie de Parkinson. Le tennis à Flushing Meadows avec, il y a quelques instants, la qualification de Joe Wilfried Tsonga.
Joe Wilfried Tsonga qualifié pour les huitièmes de finale. Il vient de battre l'Ukrainien Sergei Stakhovski en 3-7, 6-3, 7-5, 6-2. Tsonga affrontera au prochain tour en huitièmes de finale Benoît Paire. Il y aura donc au moins un Français en quart de finale à l'US Open.
Merci Fabrice. Les places financières, la Bourse de Paris termine en baisse de 2,81% à 4523 points.
20h-21h, France Info, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir la journaliste Christine Claire, Anne Rosenscher de Marianne, Virginie Lepetit de Courrier International et le communicant Emery Doliger. Avant de parler de Beyoncé et du féminisme, j'aurais juste encore une question sur les 35 heures. Vous le disiez tout à l'heure, Christine Claire, les études d'opinion montrent que Emmanuel Macron en ce moment, ça marche fort. Et alors justement, c'est après sa sortie sur les 35 heures. Est-ce que tout ça a un rapport? Et à votre avis, justement, est-ce que quand vous parliez d'évolution des mentalités, est-ce qu'aujourd'hui Emmanuel Macron correspond finalement à l'homme politique entre guillemets idéal qu'aimeraient les Français?
Le gendre idéal.
Oui, gendre dire. Politique idéal, on va dire. Est-ce qu'à votre avis,
oui,
il est en train...
Il plaît, il est mignon, il a beaucoup d'ardeur dans le regard, et puis on sent qu'il est libre. Il est libre.
Ils sont pas insensibles à Emmanuel Macron, Christine Claire.
Parce que finalement, si ça marche pas pour lui en politique, il peut retourner dans une banque où il sera 10 fois mieux payé ou 100 fois mieux payé. Donc c'est vrai que ça, c'est appréciable. Mmh. Et puis, il dit les choses, il dit ce qu'il pense. Donc c'est pas mal, je crois. Puis on a besoin de nouveaux visages. C'est vrai qu'on les voit beaucoup tourner, nos hommes politiques. Hein, on se lasse, on les voit pendant tellement d'années chez nous.
Emery Doliger sur Emmanuel Macron. Lui-même, il plaît aux Français. Il n'a jamais été élu, pourtant.
C'est le beau gosse de la politique. c'est un homme plein d'allant. On est tous amoureux de lui ou d'elle. Je sais même plus. Enfin, il incarne tellement de trucs.
Alors qu'il est un homme. Hein,
c'est vrai. Alors
c'est
d'homme.
Mais non, mais c'est pour. Il a épousé une femme plus âgée.
C'est pour dire qu'il est, tout. Il a toujours le bon mot. On le voit chanter à la télévision. On le voit faire des pas de danse ici. Il a le. Et puis quand on lui parle de politique, subitement, il revient très sérieux. Il maîtrise parfaitement l'art de la communication sans l'éthique de Nicolas Sarkozy. Alors, grand chemin devant lui.
Bien, je vous voyais. Alors vous, par contre,
François Hollande.
Voilà, Christine, vous semblez insensible totalement. Emmanuel Macron,
oui. Vous excite pas du tout. Racontez-nous.
Je vais perdre mes moyens.
Je vous en prie. Non, Virginie Petit, est-ce que finalement Emmanuel Macron aujourd'hui, il fait un peu le travail, le poisson pilote pour Manuel Valls sur certaines réformes qui sont pas populaires à gauche?
Apparemment, oui. C'est lui qui lance les ballons d'essai. Et puis Emmanuel Valls vient ensuite ramasser les fruits. En tout cas, pour la presse internationale, c'est Manuel Valls, clairement
toujours
l'homme fort de la gauche.
Ah oui. Toujours.
Et il continue, lui, à faire couler de l'encre à l'extérieur. Bon, Emmanuel Macron, un petit peu moins.
Alain Denscher, vous lui voyez quel avenir à Emmanuel Macron? Forcément de passer par les urnes ou pas?
Oui, probablement. Obligé. Mais moi, je pense que le problème d'Emmanuel Macron, et c'est un gros problème, et il s'appelle François Hollande. C'est-à-dire qu'il incarne
en effet, oui.
La politique du président de la République qui n'a pas été élu pour mener cette politique. Alors après, on pense qu'on veut de ce tournant social-libéral. On en pense du bien, on en pense du mal. On en pense du bien sur certains points, du mal sur d'autres. Ce que je leur reproche, et ce que je crois reproche beaucoup les Français, et notamment les électeurs qui ont mis François Hollande au pouvoir, c'est de ne jamais avoir expliqué pourquoi il avait fait le discours du Bourget, pour finalement finir avec Emmanuel Macron.
Ça reste son boulet, ça.
Mais oui, c'est pas une question de boulet, si vous voulez. Je pense qu'il y a un moment où il faut savoir faire la pédagogie de son revirement. Un homme politique a le droit de dire « je suis arrivé au pouvoir et par pragmatisme, j'ai décidé que c'était finalement ça qu'il fallait faire ». Voilà, c'est ce qu'explique, je fais un tout petit peu de pub, Jean-François Kahn va être content, Jean-François Kahn, dans son livre, l'ineffaçable trahison, il dit quand De Gaulle, quand il a été porté au pouvoir en 58 sur « je ne décoloniserai pas l'Algérie » et qu'après il décolonise, eh ben il explique et puis finalement il devient l'incarnation même de la décolonisation. On peut pas dire que François Hollande ait vraiment fait la pédagogie de ce revirement-là.
François Mitterrand ne l'avait pas fait non plus.
Le tournant de la rigueur, excusez-moi, ça avait. Enfin, là, je parle. Il y a un communicant en face de moi. Ça avait été un petit peu plus mise en scène, quand même.
Emery Deligé.
Non, pour revenir très sérieusement cette fois-ci sur Emmanuel Macron, même s'il demeure un beau gosse. Le sujet d'Emmanuel Macron est quand même une autre façon de faire de la politique, une autre façon de traiter les sujets, et il est plus en prise avec les usages que les principes et les différents monopoles que la France a connus. Et je me demande, et c'est une réflexion très personnelle, si d'une certaine manière, il n'est pas en train d'incarner ce qu'on appelle très rapidement l'ubérisation de la politique.
C'est une
vraie question.
L'ubérisation de la politique. Justement, est-ce que, Virginie Petit, est-ce que aussi il ne rajoute pas au flou Emmanuel Macron, quand il se dit dans un gouvernement de gauche, il n'est pas au PS, mais parfois il a un discours de droite. Est-ce que ça ne rajoute pas au flou et finalement à l'absence de confiance qu'on peut avoir dans les politiques?
C'est pas la première fois que dans un gouvernement de quelque bord qu'il soit, il y a des gens qui ne sont ni élus, ni même du parti qui est en place. Donc ça,
vous, Pompidou.
Voilà, je suis pas certaine que ça.
Parce qu'on lui reproche beaucoup ça, justement à gauche. Enfin, on lui a dit Jean-Christophe Cambadélis, lui a dit il faut avoir des explications viriles, il est pas socialiste, enfin etc.
Pour le coup, moi je trouve qu'effectivement c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il dit plutôt ce qu'il pense. Enfin, il a l'air assez sincère et cohérent dans son discours à lui, en tout cas. Après qu'il soit pas cohérent avec le PS, c'est une autre histoire, mais dans ce qu'il dit lui, oui, moi je trouve qu'il est quand même assez clair.
Ouais. Voilà. Allez, il est 20h52 sur France Info. 20h52, normalement, il va y avoir les titres dans quelques instants. Le suspense est total.
Oh, sable blanc, les cocotiers, le soleil. Oh, on est au paradis.
Ah ouais, dommage que ce soit bientôt là.
Ah oui, là, le...
Attends, je l'ai sur le bout de la langue.
Mais moi aussi, oh, c'est bête, c'est...
Et sinon, tu disais?
Ah bah, on est super bien, non?
Ah, t'as raison.
Retiens, tu me passerais la crème, stop.
Oubliez la rentrée. Ce samedi, jackpot loto de 10 millions d'euros. Montant à partager au rang 1, voire règlement. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. France Info.
20h52 sur France Info. L'heure des titres, Frédéric Beniada.
L'équipe de France de football affronte le Portugal ce soir à Lisbonne en match de préparation à l'Euro 2016. Où en est-on, Sébastien Hazard?
À 7 minutes de jeu, toujours 0-0 entre les deux formations et toujours aucun tir cadré de part et d'autre.
Après le choc, Elan, la solidarité s'organise pour accueillir les réfugiés, mais toute l'Europe n'est pas d'accord. La France et l'Allemagne sont à la manœuvre sur la question des quotas, mais le couple franco-allemand doit encore convaincre les pays de l'Est. Célèbre pour ses One Woman Show, drôle et féroce à souhait, inspiratrice de nombreux comiques, Sylvie Joly s'est éteinte aujourd'hui. Elle avait 80 ans et souffrait de la maladie de Parkinson. Le tennis à Flushing Meadow avec les qualifications tout à l'heure de Benoît Paire et de Joe Wilfried Tsonga chez les messieurs. Les places financières, la Bourse de Paris termine en baisse de 2,81% à 4523 points.
20h-21h, France Info, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, les 5 dernières minutes, juste le temps de parler pour nous de Beyoncé. Et oui, figurez-vous que la chanteuse a 34 ans aujourd'hui, on est tous contents pour elle. Alors on ne sait pas ce que la chanteuse va avoir pour son anniversaire. Jay-Z, son mari, lui réserve peut-être une surprise. Peut-être iront-ils chez Hippopotamus pour se la jouer modeste, aller comme n'importe qui se manger une viande grillée sur la Lune par exemple. C'est le seul endroit pour être tranquille. Beyoncé, 34 ans, a déjà marqué l'histoire de la musique, mais comme d'autres en ce moment, comme des chanteuses Nicki Minaj ou Miley Cyrus, oui, se disent féministe, et Beyoncé le revendique sur scène et en chanson, vous connaissez sûrement. Voilà, qui commande le monde, les filles. Alors, Anne Rosenscher, justement, c'est étonnant quand même cette tendance du féminisme qui se bat en push-up un peu, non?
Mais pour moi, c'est pas du féminisme, excusez-moi.
Parce qu'elle le revendique, enfin, j'explique juste, excusez-moi, oui. Parce qu'elle l'a mis, quand elle joue, quand elle est en concert, Beyoncé, derrière elle, apparaît le mot féminisme à un moment dans son concert, et elle en parle souvent. Excusez-moi,
Virginie Petit. Ça fait un an qu'elle tourne avec ça, en fait, elle est sur scène et qu'effectivement, elle tourne avec ça et des extraits de discours, voilà. Etc. Mais bon.
Alors, Anna Zencia.
Non, mais moi, je pense que ça n'est pas parce que dans certaines régions du monde, on empêche les femmes de dévoiler leur corps et que c'est un obscurantisme là-bas, que se montrer en mini-short à longueur de clip en train de rouler dans des positions suggestives, ça fait un manifeste de féminisme, si vous voulez. C'est peut-être un manifeste esthétique, car elle est très jolie. C'est peut-être un manifeste artistique, mais
elle dit c'est la femme puissante, comme ça. Voilà, ça montre la femme puissante de pouvoir.
Écoutez,
voilà.
Je ne sais pas, pour moi, Marie-France Garraud est plus une icône du féminisme que Beyoncé. Elle danse moins bien, elle chante moins bien. Je ne partage pas toutes ses options politiques. Néanmoins, j'en ferai plus une icône du féminisme. Non, mais juste quand même pour finir la blague, enfin sans blague, oui. c'est que pour le coup, après quand on a parfois des jeunes filles qui s'hypersexualisent très jeunes, je suis pas sûre que ça fasse avancer la cause du féminisme. Après, je veux pas forcément mettre un pantalon long à Beyoncé, c'est pas la question, mais je dis juste ne confondons pas tout, voilà. Et que le féminisme c'est pas juste ça.
Voilà, alors Christine Kerr, quand on voit ce féminisme pop justement, enfin qu'on s'en serve aujourd'hui un petit peu presque pour vendre des albums, enfin voilà, c'est un peu ça aussi.
Voilà, c'est de la publicité.
Est-ce que pour vous, ça peut quand même essayer de faire avancer une cause ou pas?
D'un côté, ça réduit la femme à un objet sexuel. Au fond, c'est ce qu'aiment certains hommes. Donc, c'est pas vraiment le combat pour la libération de la femme. D'un côté, si elle plaide vraiment pour qu'on traite mieux les femmes, qu'on les paye mieux, si elle met sa notoriété au service de cette cause, mais je pense que c'est plutôt un effet pervers. Ce qui se passe actuellement dans le monde pour les femmes, c'est tellement épouvantable. Il y a à peu près Marie-Claude Tesson, qui est morte il y a quelques mois et qui dirigeait une association Équilibre et Population, avait calculé qu'il y avait 600 millions de jeunes filles dans le monde qui étaient mariées de force, violées, abandonnées, tuées. Alors évidemment, c'est d'une autre dimension que de pouvoir montrer son corps dans un short plus ou moins long ou toute nue, pourquoi pas. Bon, c'est vrai que ça fait partie de certaines étapes du féminisme. Après tout, Colette se produisait en scène nue. C'est une façon, mais là il y a même plus à rejeter ce genre de tabou dans le monde occidental. Je vois pas quelle victoire ça apporte.
Virginie Petit, sur Beyoncé, pour vous, elle s'en sert? Est-ce que cette femme qui est très puissante aujourd'hui avec son mari Jay-Z, est-ce que ça peut faire avancer ou pas une cause?
Alors c'est une icône pop déjà de toute façon, je suis pas sûre qu'elle soit féministe, c'est juste une icône de ça, c'est sûr. Et là où elle peut faire avancer les choses, c'est qu'elle c'est une entrepreneuse, elle gagne de l'argent, etc. Donc elle peut montrer qu'effectivement, mais sauf que tout ça se fait en couple, que avant de chanter ce sont les filles qui ont le pouvoir dans le monde, elle chantait mais passe-moi la bague au doigt chérie. Donc bon, voilà. Et puis oui, bien sûr, elle s'en sert. Et c'est du féminisme à l'américaine pour les États-Unis. Enfin, on parle là quand même de quelque chose qui est assez restreint. Donc je suis pas sûre qu'elle fasse avancer la cause. Je pense que Serena Williams, par exemple, comme c'était cette semaine en une du New York Times Magazine, fait plus pour la cause des Noirs américains et des femmes en général que Beyoncé, parce que elle est elle-même justement que c'est moins calculé.
Emery de Higé, quand vous voyez ces stars-là, Beyoncé ou d'autres, s'emparer de ce terme féministe, pour vous c'est de la récup, c'est...
Oui, alors je voudrais juste prévenir nos auditeurs que les yeux de Jean-Mathieu Pernin quand il parle de Beyoncé montrent qu'il a beaucoup travaillé le dossier, que c'est un sujet important.
Une fois que j'ai dit ça,
il est évident que elle se met en scène autour des valeurs du moment. Elle a bien étudié les signaux faibles marketing qui vont porter. C'est très bien fait. Et l'objectif est quand même de vendre des disques.
Oui. C'est ça. Ça reste de vendre des disques.
C'est des disques.
Un autre interview, c'est
ça. Non, je suis tout à fait d'accord. J'applaudis ça.
Allez, les informés de France Info, ça va se terminer dans quelques secondes. Justement, Anne Rosenthal, la une de Marianne, cette semaine.
Les fossoyeurs de la gauche.
Les fossoyeurs de la gauche, d'accord.
Exactement. On revient sur plein de choses, sur toute la séquence OPS ces derniers jours.
Ces derniers jours, vous alliez dire les dernières 24 heures, mais c'est
non, mais ces derniers mois, ces dernières années quasiment.
Virginie Le Petit, la une de Cour internationale.
Alors c'est sur une autre gauche, c'est sur le nouvel axe rouge, ah oui. Pékin-Moscou.
Voilà, et on a vu en effet Vladimir Poutine qui était présent lors des cérémonies en Chine, de la victoire contre le Japon. Merci beaucoup à Christine Claire et merci beaucoup à Emery de Higé d'être passé ce soir aux informés de France Info. Une émission à retrouver en podcast sur franceinfo.fr. Et merci à ce petit enfant qui était là aussi, on ne sait pas à qui il est cet enfant, mais il a traîné dans les studios de France Info. Et la soirée continue avec Julien Moog. Bonsoir.